RMC Buzzer Time.
C'est parti pour une heure de balle orange avec moi, pour m'accompagner comme d'habitude. Fred Weiss,
bonsoir.
Stephen Brun,
salut mon petit nono.
David Cosette,
oui, bonjour, présent.
En forme?
En pleine forme, et toi Arnaud? T'as mis un petit peu de gel, t'as fait la coupe, hein?
Oui, bon, quoi, il n'est pas comme ça. C'est vrai que le gel, il n'y était pas.
C'est parce que passe à la télé maintenant.
C'est pour ça que t'es resté 30 minutes dans les toilettes tout à l'heure.
Vous êtes dans une forme épatante, messieurs, je dois le dire, et en plus, on a un très beau programme. La Jeep Elite doit-elle accepter que Sacha Obradovic puisse coacher Monaco pendant les matchs? Sacha Obradovic, c'est le coach de Monaco, et un problème administratif l'empêche aujourd'hui d'être sur le banc pendant les matchs. Alors le règlement, c'est le règlement, oui, mais n'y a-t-il pas une solution pour éviter de voir un grand coach reconnu aller en tribune? On en parle avec vous, messieurs, notre invité, José Ruiz, président du syndicat des coachs de basketball en France. La NBA, faut-il s'inquiéter de l'impact de nos Français, excepté Rudy Gobert? Nos franchises ne sont plus aussi décisifs, soit ils ne jouent pas le haut de tableau avec leur franchise, soit ils jouent peu, ou les deux. On en parle également dans Buzzer Time. Le 1 contre 1, vous le savez, c'est l'actualité du basket français sous forme de quiz. Stephen Brun, tenant du titre, vainqueur haut la main la semaine dernière,
avec
après sa victoire éclatante.
C'est un 2 contre 2, donc...
Effectivement, merci mon grand David.
Merci mon grand de rappeler ça.
Quiz, je vous le préviens, à 90% de Jeep Elite.
C'est vrai?
Effectivement.
Donc il y a 10%
d'autre
chose.
Ça reste du basket français, mais c'est 10% d'autre chose. Locker Room, les coulisses du championnat français avec Cyril Méjeanne qui viendra tout à l'heure nous parler de ce rapprochement entre Tony Parker et Jean-Michel Aulas. L'ASVEL et l'Olympique Lyonnais vont-ils s'associer pour la construction d'une nouvelle salle? L'ASVEL en a besoin avec son arrivée dans l'Euroleague. On vous dit tout dans Buzzer Time jusqu'à 22h. Tout de suite, on parle de Jeep Elite.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. Les news Jeep Elite.
Il y a des lives en cours du football, avant de parler basket bien évidemment. Metz-Sochaux, c'est de la Ligue 2 à Saint-Symphorien. Sébastien Ruffet, bonsoir Sébastien.
Bonsoir à toutes et à tous. 17 minutes de jeu ici à Saint-Symphorien entre le leader messin et le 18e et barragiste pour l'instant Sochaux. Deux types de pression un petit peu différentes on va dire, puisque si les messins s'imposent, eh bien ils auront 11 points d'avance sur le 3e à 10 journées de la fin. Ce sera un pas en Ligue 1 avec la montée directe évidemment, sans même passer par les barrages, parce que là il faudra aller les chercher ensuite les messins. Et puis pour les Sochaliens, c'est tout le contraire de l'autre côté, puisqu'ils ont 4 points de retard sur Nancy. Faudrait ramener au moins un petit point, mais que 2 d'avance sur Béziers et que 3 sur la lanterne rouge, le Red Star. Donc on voit que les Sochaliens ont tout intérêt à ramener au moins un petit quelque chose. C'est pas simple au vu des deux séries en ce moment, puisque les Sochaliens restent sur 3 défaites et 1 nul avec 0 but marqué, donc ce sera compliqué quand même pour eux. Mais ils ont tapé le poteau là à l'instant avec Sofiane Tam qui sur un corner a surgi deuxième poteau, le plat du pied est allé sur le poteau de Kidja, et sur la contre-attaque, et bien Renaud Coad a lui aussi tapé le poteau de Maxence Prévost, mais on en est pour l'instant toujours à 0-0 entre Metz et Sochaux après 19 minutes.
Merci Sébastien. Le basket français avec la Jeep Elite doit-elle accepter que Sacha Obradovic coache son équipe pour la deuxième fois depuis son arrivée sur le banc de Monaco? Sacha Obradovic, l'entraîneur de Monaco, a dû s'asseoir en tribune. C'était à Limoges ce week-end. La faute à un problème d'équivalence des diplômes. Une commission nationale devait étudier le dossier du coach serbe mardi dernier, sauf que la commission qui dépend du ministère des Sports n'a étudié que 30 dossiers. Obradovic était le 35e. Il faudra donc attendre le 8 avril prochain désormais. 4 matchs de Jeep Elite et 1 de Coupe de France entre temps. Aucune période de clémence accordée par la LNB et les acteurs de Jeep Elite. Est-ce normal de voir Obradovic élu meilleur coach de l'Eurocup l'an passé avec Krasnodar s'installer en tribune? Stephen, est-ce que c'est normal ou pas? Je sais que sur le sujet, t'as déjà eu un avis très fort.
Oui, alors... Il y a des règlements, il y a des lois. Moi, je suis pour le bon sens. Je trouve ça aberrant, tout simplement, que ça continue de durer cette situation-là. C'est pas normal. On parle pas d'une profession. On l'a dit la semaine dernière dans Buzzer. On parle pas d'une profession qui sauve des vies. On parle de basket, d'un entraîneur de basket où les règles sont les mêmes dans le monde entier. Et c'est un garçon qui a une réputation dans le milieu, qui a été meilleur coach de l'école passant derrière. Je ne comprends pas. Faisons preuve de bon sens. Et puis tu disais en tribune, on est quand même enfin, je sais pas si les gens ont vu les images, c'est quand même le bal des faux culs. Si vous voulez vraiment pas qu'il coach, mettez-le tout en haut des salles. Il pourra pas donner ses consignes parce que là, les joueurs le regardent, il est debout, il annonce les systèmes à ses meneurs de jeu. Donc c'est plus le bal des faux culs. Mais à un moment donné, faisons l'effort. Si tout le basket français a envie qu'un grand coach comme ça puisse coacher dans notre championnat, eh ben il suffit de dire avant les rencontres, appeler le président monégasque, Monsieur Dadejko, et dire écoutez, Sacha Obradovic, il peut s'asseoir sur le banc, on joue contre vous, il peut s'asseoir, il peut coacher. Nous, on fera pas de problème, on perd, on gagne. on fera pas de recours et ça serait beaucoup plus simple.
Moi, je suis scandalisé. Je suis absolument scandalisé. En plus, quand j'entends qu'il y avait 30 dossiers qui ont été traités,
que les... J'espère que c'est pas par ordre alphabétique. Hein.
Oui, voilà.
Parce que toi, heureusement, tu passes pas une équivalence.
C'est clair.
Brun Cosette, les premiers de la classe.
Ouais, comme par hasard. Mais c'est vrai que je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a une équipe professionnelle qui attend son coach et que pour 5 dossiers, il passe pas. Enfin, l'histoire me paraît tellement aberrante. J'ai l'impression vraiment je sais même pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est une faute professionnelle de pas laisser ce coach coacher.
Alors pour être clair, la commission, ça dépend du ministère des sports, la Ligue nationale de basket, mais qui pourrait.
La prochaine réunion, c'est le 8 avril quand même. Ouais,
juste moi, c'est pour ça je vais essayer de traduire dans d'autres termes ce que l'indignation de Fred, que je comprends tout à fait. Moi, ce qui me choque le plus, c'est cette histoire de commission. Quand on apprend effectivement qu'ils ont passé en revue 30 dossiers et que Monaco, c'était le 35e. S'ils se réunissent le lendemain pour faire la suite, c'est pas un souci. Mais là, tout le monde est ridicule au final.
Il devait être 16h,
c'était l'heure de l'apéro. Mais voilà, c'est genre, les gars, oh, mais il est déjà cette heure-là, mais dis donc, j'ai les enfants à aller chercher à la crèche, moi. Puis moi, j'ai l'apéro avec Gérard. Donc, non, tant pis. Allez, rendez-vous en avril. Derrière, il y a... Une société, il y a la vie d'un club, il y a des salariés, il y a aussi la vie d'un homme. Et on dit quoi? On dit pas, bon allez, demain on termine, hein. On dit non, rendez-vous en avril. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Moi je suis choqué.
Après, on le répète, la Ligue nationale de basket et la Fédération française de basket n'y peuvent rien, ne peuvent pas changer la situation.
Non,
sauf,
mais est-ce qu'on peut avoir
la Fédération française de basket pourrait, a le pouvoir de donner une dérogation exceptionnelle, mais elle s'expose à ce que les autres clubs de la Ligue,
est-ce que ça fasse jurisprudence,
et que les autres clubs de la Ligue se disent, mais comment ça se fait vous leur donner une dérogation? Donc, c'est pour ça que le cas est complexe, mais David a raison. Cette commission, c'est un gag. Une réunion, toutes les 5 semaines.
Malheureusement, c'est la France. Exactement, ça fonctionne comme ça. La bureaucratie française.
Mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir une solidarité entre clubs? Alors on a vu, c'était Limoges.
La solidarité entre clubs en basket, ça n'a jamais existé. Alors, je sais pas si dans d'autres sports, ça peut exister.
On n'a pas existé.
Limoges a subi cette situation, par exemple, avec Jusko Vujosevic en 2016.
Yuri Vajeras, qui est le président actuel de Limoges, qui à l'époque, c'est lui qui a géré toute la paperasse de Jusko Vujosevic. Rappelez-vous de cette scène à l'ASVEL où il coach, il a pris mail sur mail, il a pris pas des menaces, mais il a dit attention, la prochaine fois, on fera un recours sur la feuille de match.
On commence à appeler ça une menace.
Et donc, Yuri Vajeras, qu'est-ce qu'il fait lui, président du club de Limoges? Il dit c'est bon, alors que lui il a vécu des galères complètes avec Vujosevic. Donc il y a des clubs qui peuvent pas.
Mais c'est même plus compliqué, il serait capable de dire oui, et s'il perd les matchs, de faire un recours.
Et puis il y a des enjeux sportifs. Imaginez que vous acceptiez que Sacha Obradovic coach. Vous dites, vas-y, il y aura pas de problème. Il gagne. Et si il y a une troisième équipe, une équipe qui est en ballotage favorable avec, par exemple, Limoges pour classement, et que Monaco gagne et passe devant cette équipe-là, ils diront, mais Limoges, ils ont laissé Obradovic coacher. Donc, il y a trop d'implications en jeu. C'est le foutoir. Et tout ça, on en revient à quoi? À cette commission.
Il faudrait pouvoir signer une charte sur laquelle on pourrait pas revenir.
Exactement.
C'est la seule solution.
Une charte. Et avec un spécialiste du basket espagnol qui nous a interpellé sur Twitter la semaine dernière en disant que, parce qu'il avait vu le débat sur Buzzer, il nous disait, nous, Espagne, on a d'autres critères. Alors oui, il y a une commission aussi, mais si un coach arrive dans le championnat espagnol, qu'il a coaché pendant 2 ans en Eurocup ou en Euroleague, si c'est un ancien coach NBA, si c'est un coach NCAA, si c'est un coach d'une équipe nationale qui est dans les 10 ou les 12 meilleures nations européennes, il peut coacher tout de suite. Donc on est plus sur du diplôme, on est sur de la qualité du coach,
bon
on est sur la réputation d'un coach.
Donc ça veut dire que, par exemple, imaginons Greg Popovic débarque à l'ASVEL la saison prochaine.
Le problème se poserait de la même façon.
Après, s'ils le signent au mois de juillet, ils ont le temps de
faire l'équivalence.
Quoi, c'est l'été, peut-être que la commission est en vacances.
Oui, je m'interroge sur le foot. Si jamais il y a, je sais pas, quel coach roumain, russe, bref, en dehors de l'Union européenne, parce que c'est ça l'histoire, qui a peut-être gagné des grands titres mondiaux européens en foot. Et qui viendrait arriver pour coacher un club de Ligue 1, est-ce que ça prendrait de moi?
Est-ce que José Mourinho serait inscrit en tribune s'il vient coacher un club en France?
Après, mais
ça va
même plus loin.
Ça va même plus loin. David l'avait signalé à Buzzer la semaine dernière. Imagine un coach français va coacher comme Vincent Collet va coacher à l'étranger.
Olympiakos, on avait entendu son nom à un moment donné.
Hyper choqué de dire, mais qu'on sait qu'on ne laisse pas coacher. Pourtant, parce qu'on connaît ses compétences. Eh ben, c'est la même. C'est exactement la même.
Donc, refonte du règlement pour s'adapter au basket professionnel.
Mettre des critères. Comme les critères espagnols, il est peut-être sélectif, mais il y a des critères de réputation de coach. Imposer ça.
Si un
coach
a une ancienneté. Que ce soit sélectif, quand même.
Un coach qui a un passif Euroleague, Eurocup ou Outre-Atlantique doit pouvoir coacher. Mettons des règles avec des critères de sélection, tout simplement.
Mais est-ce que c'est pas aussi français de se protéger?
Mais oui, bien sûr. Est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose d'un peu corporatiste?
Moi, est-ce que ça peut faire jaser à des coachs qui sont au chômage de se dire,
j'en ai parlé à certains coachs qui étaient en formation ou qui venaient d'être formés, qui me disaient, ça coûte très cher la formation pour être coach en France. Et donc, en fait, ils se protègent par rapport à ça en disant, il faut bien valoriser à un moment cette formation qu'on a payée très cher. Donc, on préfère se protéger un petit peu en ayant des règles.
Ça veut dire que c'est plus la prime au porte-monnaie plutôt qu'au talent de coach, non?
Je sais pas. C'est du protectionnisme. Mais c'est pour valoriser une formation.
Faut toujours se mettre à la place des gens finalement qui vivent ça. Moi, j'imagine. Je pars en Suisse, par exemple, recruté par une télévision suisse pour aller commenter des matchs. Et là-bas, on va me dire, ah ben non, mon grand, parce que t'as pas ton bac suisse, donc tu peux pas commenter des matchs. J'en ai commenté 2000.
Les spécificités au basket helvétique est très spécial.
En Belgique, peut-être qu'il faut s'adapter. Un 98,
tu vois le truc, 98, c'est terrible. 74. Le mec peut pas exercer son métier pour lequel on peut raisonnablement considérer qu'il est une forme d'expérience, à minima.
C'est l'image quand même de voir triple champion d'Europe en tant que joueur, en tant que coach, il débarque pas. Sacha Obradovic, meilleur coach de l'Eurocup, on le rappelle.
Notre image est désastreuse par rapport à ça.
Est-ce qu'on avait besoin de ça pour que notre image soit désastreuse?
Justement, est-ce que c'est on a besoin de rajouter de l'huile sur le feu et de dire, écoutez les gars, on est vraiment désastreux, mais on peut faire pire.
Parce qu'on est content d'attirer en Deep Elite les meilleurs joueurs européens, mais en tout cas des joueurs européens référencés parce que c'est une ligue sérieuse. Et d'avoir des coachs étrangers, c'est aussi un.
C'est une plus-value. Je veux dire, quand vous allez scouter les équipes de Sacha Obradovic, peut-être qu'il y a des coachs français qui vont dire, ah, il fait des plays comme ça avec Kuban, peut-être qu'il va apporter.
Les coachs étrangers vont arriver en disant, ah ouais, il est quand même venu lui. Ah oui, les joueurs vont dire, ah, il y a quand même un coach de cette ampleur qui est venu coacher en France.
Et tu sais, c'est pour revenir comment le système français fonctionne. Quand t'as des jeunes joueurs que tu veux naturaliser, alors que ce sont des gamins qui sont arrivés adolescents. Tiens, je pense par exemple à Sekou Doumbouya, qui est originaire de Guinée. De mémoire. Ça a été compliqué de lui trouver un passeport. Et le président de la Fédé s'est employé auprès de ministères pour qu'il puisse avoir un passeport, parce que c'est dans l'intérêt du basket français. Et le mec, il vient pas de la Lune, il est là depuis qu'il est gamin, donc c'est entre guillemets normal qu'il ait son passeport français, et que donc il puisse rejoindre notre sélection avant de se faire happer par une autre sélection. On a déjà vu ça, notamment avec
Sergi Baka, Nicolas Mirotić.
On est les gentils de la classe, mais c'est insupportable, parce que je me souviens à l'époque, la Russie, J.R. Holden, ça parlera peut-être, c'est un fort joueur américain qui a joué pendant des années au CSKA Moscou. Il a été naturalisé par Poutine lui-même pour qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale pour aller faire championnat d'Europe.
C'était une bonne idée d'ailleurs.
Voilà, mais ils ont été champions d'Europe.
Bravo Vladimir.
Merci messieurs pour ce débat Deep Elite. On s'excuse, on devait avoir José Ruiz, le président du syndicat national de l'école. Bah, il répond pas. Voilà, ça arrive. Hein.
Comment ça, José?
Il y a des choses comme ça.
José Ruiz, tu réponds pas à son téléphone.
C'est des choses comme ça. Pour une fois, tu peux passer à l'antenne. Un petit tour des lives, puisqu'il y a des matchs en cours, notamment de la Ligue 2. On va du côté de Metz. Metz-Sochaux, Sébastien Ruffet.
Moi, j'avais un Jean Ruiz sur la pelouse, si ça vous intéresse, mais je pense qu'il est pas dispo non plus.
Mon petit joueur, non?
28 minutes de jeu, toujours 0-0 dans cette partie entre Messin et Sochalien, avec la frappe de Bouloyala qui va être contrée tout à l'heure après les deux poteaux, hein, côté Sochalien puis côté Messin. On s'est dit que le match allait s'emballer un petit peu, et finalement on a repris un jeu un petit peu de position avec une domination messine à 70% de possession de balle. Déjà 6 frappes pour les Messins. Les Sochaliens sont vraiment en attente d'un coup pour l'instant. On arrive à la 29e minute et donc toujours 0-0 entre Metz et Sochaux.
Merci Sébastien. Et puis il y a de la Jeep Elite, c'est Cholet qui reçoit à Dijon, et ce sont les Dijonais qui mènent 26-16, temps mort demandé par Herman Kunter, le coach du club des Mauges. On revient dans Buzzer Time jusqu'à 22h sur RMC. On va tout de suite parler de NBA. Faut-il s'inquiéter de l'impact des Français NBA? Hashtag RMC Live sur Twitter ou le 32-16. À tout de suite.
RMC Buzzer Time.
Buzzer Time sur RMC, RMC Sport News jusqu'à 22h, votre dose hebdomadaire de basket.
Je suis fâché.
Pourquoi?
José Ruiz, il est où? Pour défendre les coachs français, il est où?
On y peut rien.
Il est où, José?
C'est vrai qu'on échangeait, on a émis des hypothèses, et lui, il n'est pas là pour nous.
On aurait bien entendre, en tout cas.
José, t'as pas de réseau? Comme au Bicard, il sait pas que ça reste ton téléphone.
Il n'y a pas de réseau, voilà. On parle NBA, c'est fini la Deep Elite pour l'instant, on reviendra pour le 1 contre 1 tout à l'heure, et puis Locker Room, on va parler de Chalon sur ce, notamment la NBA. Faut-il s'inquiéter de l'impact des Français en NBA?
RMC Buzzer Time. Buzzer Time.
Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Les news NBA.
Tu le connais par cœur, Stephen, hein.
Ah bah oui.
On commence à le connaître.
Le lundi, en plus, je l'ai vu en direct, cette action.
Il y a Rudy Gobert et les autres en NBA cette année. Le pivot du Jazz de Utah est le seul joueur français dominant dans une franchise jouant les premiers rôles dans la Grande Ligue. Evan Fournier, joueur cadre d'Orlando, n'a toujours pas connu les playoffs avec la franchise floridienne. Tony Parker est très bon dans son rôle de rotation à Charlotte, où il épaule Nicolas Batum, deuxième temps de jeu de l'équipe. Mais là aussi, les résultats collectifs ne sont pas bons. Frank Ntilikina vit une deuxième saison compliquée à New York entre blessures et manque de confiance du coach. Joakim Noah revient fort à Memphis, mais les Grizzlies n'ont rien à jouer dans cette fin de saison. Et les autres ont des rôles mineurs dans des franchises souvent mal classées. Mine Mill, Wau Cabarro, Okobo ou Yabusele. Là, la franchise est mieux classée, c'est Boston. La question, faut-il s'inquiéter de l'impact des Français en NBA? Qui veut commencer?
Moi,
David?
Ouais, moi déjà, sur l'intitulé ou la présentation, si je peux me permettre, Arnaud, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, le seul souci qu'on devrait aborder, c'est... les joueurs, ils jouent ou ils jouent pas. Et je mettrai à part le fait que leurs équipes sont dominantes ou en play-off ou mal classées. Il faut bien des joueurs pour jouer dans des équipes mal classées. Même Evan Fournier, son équipe, chaque année, c'est quand même pas terrible. Chaque année, ils essayent de se qualifier. Ils se qualifient pas.
On a pas toute la chance, comme Tony Parker, d'arriver à San Antonio avec Tim Duncan et David Robinson.
Le seul vrai problème, c'est quoi? C'est Eli Okobo, Gershon Yabusele,
les jeunes, en fait.
Lou Aou, même Frank Ntilikina quasiment. Alors oui, les jeunes, en fait, c'est, on joue ou on joue pas. Après, quand on joue dans une franchise qui est pas terrible, du moment qu'on a du temps de jeu, c'est pas un souci. Par contre, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu, je me souviens déjà, il y a une petite dizaine d'années, on va dire au début de l'ère Tony Parker, il a pas été le seul, hein. Ronnie Turiaf, Mike Pirtus, on va pas tous les citer. Il y a toujours eu star ou superstar, Tony Parker, même Boris Diaw, d'une certaine façon, Joakim Noah, des joueurs qui étaient des vrais joueurs de NBA, qui avaient un vrai rôle, peu importe que l'équipe elle aille en playoff ou qu'elle n'y aille pas, et ceux qui ne jouaient jamais, qui restaient un an, deux ans, trois ans, ça tirait parfois au gâchis terrible, et qui parfois revenaient en Europe, ou ils restaient là-bas pour faire des bouts de contrat, et ça, c'est un vrai souci, par contre.
On accueille au 32-16, Jean-Christophe nous appelle, supporter des Knicks. Bonsoir, Jean-Christophe.
Bonsoir, monsieur.
Salut.
Alors, Jean-Christophe, tu nous dis que on est plus sur des profils défensifs sur les joueurs français, et on l'a vu dans notre débat, notamment de la semaine dernière. C'est vrai que la NBA, c'est aujourd'hui la prime aux joueurs offensifs, et donc nos Français ont du mal à s'en sortir dans ce registre.
Ouais, je pense que tout le monde est allé un peu dans la caricature du joueur français égal joueur finalement assez périphérique et surtout très bon joueur défensif, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, à part Evan Fournier, on a surtout des joueurs qui sont très catégorisé comme défensif, et Kina, c'est désormais l'exemple. Moi, je supporte les Knicks. Dans une équipe où il y avait, au début de la saison, trois meneurs où il avait largement les moyens de prendre le poste de titulaire, il a été catégorisé comme étant uniquement défensif, et finalement, il s'est un peu enfermé là-dedans. Et c'est vrai que de manière générale, comme le disait David, bah, les joueurs français les plus jeunes, ils n'ont pas forcément su saisir les opportunités. Donc c'est un peu inquiétant de se dire finalement, les joueurs aujourd'hui qui ont un rôle, c'est plutôt les plus âgés, et les plus jeunes qui jouent dans des équipes pour la plupart faibles, où il y a de la place et des opportunités à saisir, bah, ils ne la saisissent pas forcément. Donc, ouais, l'impact des joueurs français, de manière générale, il est plus faible qu'on a connu il y a 5 à 10 ans.
Après, comme a dit David, on a toujours eu cette physionomie-là avec une star, Tony Parker, et à côté, c'était... Bah, je mets Boris Diaw de côté parce qu'il a quand même été élu meilleure progression sur la saison. Et Joakim Noah, après, on a toujours eu que des role players, j'ai envie de te dire.
Mais qui jouait dans des franchises, je pense, Ronnie Turiaf, il a quand même une bague.
D'accord.
Boris Diaw.
Oui, mais si, non, mais.
Ouais, mais des joueurs de rôle.
Rodrigo Bobo a une bague aussi, si tu veux.
Il y a Naimi avec Dallas Bobo aussi, mais.
Mais comme ça aussi avec des joueurs de rôle.
Oui, bien sûr, mais cette année, on a une vraie star. Cette année, on a une vraie star qui est Rudy Gobert. Et encore, qui est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'on est dans un monde de NBA où c'est tout pour l'attaque, mais c'est quand même un garçon.
Petit marché en plus.
Un petit marché, mais c'est quand même un garçon qui fait sa plus belle saison en carrière. Il est presque à 16 points de moyenne et 12 rebonds. Il aurait dû être All-Star. Après, on a des bons joueurs de basket. Je veux dire, Evan Fournier est encore à 15 points de moyenne.
Nico Batum,
et si Orlando est à deux doigts de faire les playoffs, c'est peut-être parce que Evan Fournier met un peu moins de points, mais qu'il y a des joueurs autour de lui comme Nikola Vucevic ou comme Aaron Gordon qui ont monté leur niveau de jeu et qui permettent à Orlando d'être une équipe prétendante à la 8e place. Tony Parker fait une saison exceptionnelle. Nico Batum, c'est, on peut en débattre des heures sur Nico Batum parce que les gens vont me parler de, il prend 25 millions, d'accord, bah alors donnez-lui le rôle d'un garçon qui prend 25 millions à Nicolas Batum. Donnez pas 25 tirs par match à Kemba Walker, donnez pas 20 tirs par match à Jeremy Lamb.
Le problème c'est qu'on
ramène toujours Nicolas Batum à son contrat de 25 millions, sauf que si les Hornets sont prétendants à la 8e place, c'est parce que lui, il moufte pas, il accepte le rôle qu'on lui donne et qu'il donne les ballons au Gouin.
Mais encore une fois, on résume souvent les joueurs à leurs statistiques, et il n'y a pas que ça, et je suis d'accord avec, pour Fournier par exemple, ok, il a baissé ses stats, mais son équipe va un petit peu mieux et ça joue mieux au basket.
Et je crois qu'Evan Fournier est le plus content et le plus content cette année que les deux dernières années où il mettait à 17 points de moyenne.
Donc à un moment, est-ce qu'on peut considérer que c'est pas bien? Non, au contraire, je pense que c'est un mieux, c'est un plus, c'est un progrès.
Oui, que Nico Batum, c'est un joueur référencé en NBA, même pour les Américains. Je veux dire, il a tellement de saisons derrière lui.
Ça s'il était mauvais, il jouerait pas 33 minutes par match et son coach arrête de mettre sur le terrain.
Et après, même si leurs équipes, elles font pas les playoffs tout le temps, ça reste des joueurs qui font de très belles carrières. Et il y a des joueurs qui, s'ils continuent comme ça, il y aura un point d'interrogation au-dessus de leur tête. Moi, je pense à Elio Kobo, qui a un talent prodigieux, qui est dans une franchise de la loose, et qui, malgré ça, n'arrive pas à trouver du temps de jeu dans la première saison. Mais faut pas oublier aussi que Rudy Gobert, sa première saison, on s'en souvient pas.
Il était en NBDL à l'époque. Pour les jeunes garçons comme ça, laissons-leur du temps. Moi, je me pose plus d'interrogations sur un garçon comme Gershon Yabusele, qui est dans une franchise très forte, Boston, où il y a trop de monde devant lui.
Ça fait plusieurs saisons.
Je me pose la question pour un garçon comme Timothée Luau Cabarro, qui a eu du temps pour essayer de trouver sa place parce qu'il a fait trois équipes différentes. Et là, il est au Bulls de Chicago et il y arrive toujours pas.
C'est un peu différent. Yabusele, quand même, et non, j'ai l'impression que Yabusele.
Ça fait trois ans,
Gershon. Je suis d'accord, mais je pense qu'il
devrait. Il devrait essayer d'être aidé
parce que, enfin, ouais, c'est difficile, mais c'est vrai que dans une autre franchise, je pense qu'il aurait du temps de jeu.
Oui, mais il faut aller voir.
C'est de voir nos jeunes qui jouent peu.
Bah oui, moi c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est Franck Ntilikina et Elie Okobo qui sont, je vais pas dire décevants. Elie Okobo, c'est sa première année, donc certes la franchise c'est une franchise de la loose, mais pour une première année c'est plutôt compliqué.
Il s'adaptera en plus.
C'est Franck Ntilikina la plus grosse interrogation. Il est sur sa deuxième saison. Après, je le dis, je répète,
est-ce qu'on va attendre longtemps, messieurs, avant d'avoir un nouveau Français champion NBA?
Mais c'est là où on va se rendre compte que quand Tony Parker va arrêter, ça sera peut-être dans 3 mois ou dans 15 mois, et ben on verra que Tony Parker, il a quand même régalé le monde entier.
Mais c'est pas le problème d'être champion NBA ou pas, Arnaud, même si pour le prestige, bah déjà pour le joueur c'est formidable, pour le prestige du basket français c'est aussi intéressant parce que c'est une exposition, mais c'est pas ça le souci. Le souci c'est les joueurs qui essayent et qui perdent plus ou moins de temps. C'est pas les premiers. Il y a eu Axel Toupane qui a essayé, il y a eu Livio Jean-Charles, il y a eu Alexis Aginsa quelque part aussi, même si à un moment il a un peu joué
Nando à
New Orleans. Nando aussi, sauf que certains de ces joueurs se sont dit: allez, j'arrête et je rentre en Europe. Le tout, c'est, faudrait qu'il y ait finalement un curseur et qu'à un moment, ces joueurs, ou surtout leurs agents, leur disent, tu sais quoi? Là, ça fait 3 saisons, 5 clubs. C'est mort. Bah,
l'exemple, Kevin Serafin aussi.
Je sais, Stéphane.
Oui, mais quand Kevin Serafin est revenu en Europe, il s'est un peu régalé au début.
À Barcelone. Ouais, parce qu'il est revenu à Vitoria pendant le lockout.
Je parle de Barcelone quand il est revenu la première année. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais pourquoi t'es resté aussi longtemps en NBA?
Mais parce que t'es en NBA, putain.
Alors, je vais reprendre, Stephen. Je comprends ce que tu veux dire. Et moi-même, je kifferais complètement, évidemment, la
NBA américaine.
Mais une fois que tu as fait, je vais même pas dire une, mais 2 saisons, et que tu as vu le décorum, que tu as vu le niveau, que tu as vu les superstars, que tu as vu les danseuses, c'est important aussi, et tout le reste, est-ce que finalement, quand tu vois aussi,
est-ce que tu crois qu'un garçon comme Timothée Luau Cabarro,
une
aide d'impôt en Europe, chargée, etc., ça coûte autant ou quasiment que...
Est-ce que vous croyez qu'un garçon comme Timothée Luau Cabarro, qui est en train de kiffer sa life en NBA, il viendra en Europe, il serait dominant? Je suis pas sûr.
Non,
je suis pas sûr qu'il prendrait le même argent, je suis pas sûr qu'il kifferait la life,
alors,
mais il est en train de kiffer en NBA.
Ce que je veux dire, c'est... Je comprends, mais une fois que tu connais, que tu dis, je l'ai fait, je l'ai vécu,
mais parce que tu te dis qu'en NBA, c'est toujours the right place at the right moment, et tu dis qu'à un moment donné, peut-être que je vais être transféré, qu'il va arriver à faire les deux tirs, et je vais faire 6 matchs où je vais mettre 15 points, et
ma carrière sera lancée.
Rappelle-toi, Jérémy Lin,
il fait connu au bâtiment, alors. C'est l'ignorance qui fait vivre, en fait. C'est ça.
Stop. Ça sera peut-être un autre sujet de débat pour les prochaines émissions.
Non, rappelle-toi, Jérémy Lin.
L'Insanity. C'est fini pour la NBA. Avant le 1 contre 1, le quiz qui arrive dans quelques
instants. Il y a José Ruiz au téléphone ou pas?
La 28e journée de Ligue 2, Metz-Sochaux. Sébastien Ruffet.
Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Une grosse occasion tout à l'heure pour les Sochaliens avec un contre mal négocié par Yoann Molo, dont la frappe était un petit peu trop écrasée. Et puis, on est passé à 10 cm du but de la saison pour Opa Nguette, le Messin, avec un ciseau qui est absolument magnifique et qui a tout simplement pris l'équerre du n'est plus gardé par Maxence Prévost. Donc on en reste toujours à 0-0 à la 43e minute entre Metz et Sochaux.
Merci Sébastien. Il y a aussi de la JP Elite, 22e journée. Et c'est Dijon qui mène de 14 points à la mi-temps sur le parquet de Cholet, 40 à 26. Allez, faut se calmer, Stephen.
On n'a même pas parlé de la renaissance de Joachim Noah.
Il va falloir être serein. On aura le temps, t'inquiète pas. D'accord. Il y a encore d'autres émissions d'ici la fin de l'année. Il va falloir être serein, calme pour ce quiz. Fait un contre un. Ça sera chacun sa peau tout de suite sur RMC. Buzzer Time jusqu'à 22h.
RMC Buzzer Time.
Allez, on est ensemble jusqu'à 22h sur RMC, RMC Sport News, Buzzer Time. Dans un instant, le 1 contre 1 contre 1. Stephen Brun contre David Cosette contre Fed Weiss avec ce quiz sur l'actualité du basket français. Avant cela, c'est la mi-temps à Metz, 0-0 entre Metz et Sochaux. C'est la 28e journée de Ligue 2. Il y a aussi de la JP Elite, le championnat français, la 22e journée. C'est également la mi-temps avec Dijon qui mène sur le parquet de Cholet, 40 à 26. Stephen, t'as un œil dessus ou pas, match? Stephen, David et Fred.
Ouais, on regarde un petit peu. Bah écoute, les Dijonais ont emmené Cholet dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire bien défendre. Ils gagnent des ballons. Cholet qui est un peu dispendieux, compliqué cette équipe dijonnaise à jouer. Très compliqué.
Cholet qui essaye de se sauver. Alors c'est vrai que depuis le retour d'Herman Kutter, ça marche pas mal. Hein.
Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que Dijon c'est
difficile à jouer. Surtout pour une équipe Cholet, encore qui est un peu jeune et tout ça. C'est
qui est en place et qui marche bien grâce au bon travail de Laurent Le Niam, le coach de Dijon. Allez tout de suite le 1 contre 1 contre 1.
RMC. Buzzer time. Le 1 contre 1 contre 1 contre 1.
Ah, tu n'as pas fait remix.
Le petit remix, non, t'as manqué le remix. C'est l'actualité du basket français sous forme de quiz. Il y a 10 points à se partager. Des questions à 1 point, des questions à 2 points notamment. Stephen, tu as gagné la semaine dernière.
Oui.
6-1, premier set.
Oui.
Fred.
Oui.
Alors Fred, tu veux déjà te justifier au cas d'une défaite?
Non, en fait Fred, il veut balancer Yann Casville qui était son pote mais qui est pas là.
Bon, normalement j'avais tout misé sur lui et effectivement il a pas été bon.
Invité la semaine dernière.
Donc je suis très déçu.
Il mise pas sur José Ruiz, il est pas là. Bon.
Allez, on commence par un qui a dit. Je vous donne une citation, il faut me donner l'auteur de cette phrase. Qui a dit après avoir aidé le club à devenir une équipe? Non. Après avoir aidé le club à devenir une équipe de niveau play-off, après avoir été sélectionné au All-Star Game et après avoir eu la plus grande évaluation, Julian Wright, l'ancien joueur de Levallois, après avoir eu la plus grande évaluation cumulée du championnat, je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour montrer qu'ils ont bénéficié de mes services économiquement parlant en termes de vente de billets et de marketing. Je ne sais pas si la venue de Julian Wright a boosté la billetterie de Levallois, en tout cas.
Si, c'est deux au départ, il était quatre.
C'est un message de l'ancien joueur de Levallois qui a quitté le club un petit peu du jour au lendemain. Il s'est justifié dans une vidéo de son départ de Levallois, en tout cas des deux côtés.
Pour une histoire d'école pas réglée, bref, il est allé sur LinkedIn. Non, mais il a raison, c'est le réseau pour le travail, donc ça concernait son travail.
Cette vidéo. Donc un point pour Stephen, faut pas l'oublier. Tiens, une petite question. Je vous disais à 90% de JP Elite.
Oui.
Qui est le leader de Pro B?
Orléans.
David Cosette.
Enfin, il y a quand même des équipes ex aequo, hein.
Oui, mais en pourcentage de victoire, si on prend le classement, c'est Orléans qui a battu Nancy.
Non, ils ont
71. Ils étaient tous à égalité avant cette journée.
Ils ont victoire. Non, mais Rouen joue demain.
Oui, mais en pourcentage, moi j'ai pris le classement à l'instant T. Ouais. Voilà, c'est comme ça.
Hein. Et Rouen, en plus, il joue pas demain, il joue lundi prochain et c'est le match qu'on va diffuser.
Non, il joue un match en retard demain.
Il joue un match en retard parce qu'on va aussi. On va aussi
les vrais passionnés de basket, même la Pro B, ils suivent.
Ah oui.
La deuxième division française. Un autre petit qui a dit.
C'est ça les 10% restants, c'est cette question.
Ah, peut-être pas.
Bah, vu qu'il y a 10 points, c'est possible.
Oui.
Qui a dit, j'ai tout fait pour attraper une victoire de plus qui nous donne des chances
supplémentaires
vers le maintien. Je n'ai pas
Fred, tu as un point d'avance.
De manière personnelle.
Non, en fait, tu sais quoi, j'ai voulu, dès qu'il a commencé, j'ai voulu lui dire, j'ai dit, attends, ça fait trop la mer noire.
Mais oui.
Moi, j'ai pas dit Espinoza, sacrément. Donc, je me suis retenu, mais je savais que c'était lui.
Julien Espinoza qui quitte son poste de coach d'Antibes, pourtant après une victoire contre Bourg-en-Bresse. Il faut gagner.
C'était prévu avant.
Alors, il l'a démenti aujourd'hui devenir conseiller du président. C'est Nicolas Antic qui le remplace, qui était sans club depuis son départ de Chalon-Reims. 2 points pour Stephen, 1 point pour David, 0 pour Fred. Je vous disais 10%, pas de JP Elite.
Bah sur 10 points, t'as déjà donné tes 10% qui sont pas de JP Elite.
J'aurais peut-être dû dire 20%. Qui est la meilleure évaluation de Ligue féminine de basket?
Hélène Siak.
Oh là, il est fort. Combien?
Ouais. Parce qu'elle a fait 20,
35 en tout cas.
Alors, elle est à 20 d'évaluation, c'était sur la saison. C'est la meilleure joueuse.
Ah, je crois que c'était sur la dernière.
Sur le match, moi, je le savais.
35 d'évaluation ce week-end dans la victoire de Latte Montpellier contre Villeneuve-d'Ascq. Alors, dans le basket féminin, c'est rare. 115 à 80.
C'est un record. C'est plus que rare. C'est un record.
Un record égalé. C'était Valenciennes qui avait fait ça en 2003.
Elle a fait combien en points, rebond, tout ça pour
elle avait fait 28 points. Je sais pas combien, mais 35 d'évaluation.
À mon avis, je sais pas qui était la défense sur elle, j'ai un doute.
Bah non, parce que moi, ma femme joue 4. donc c'est pas elle.
3 points pour Stephen, 1 point pour David, 0 pour Fred.
Mais c'est pas à peine de, on a compris ça.
Et il faut rappeler le score.
Oui, mais tu dis les deux et c'est bon.
Pour les auditeurs de RMC, les téléspectateurs de RMC Sport News. Qui suis-je? Je vais vous sortir une définition.
Une bio.
La personne. Voilà, la
bio. Ou une définition?
Voilà, la bio. J'ai perdu au total 6 finales, toutes compétitions confondues, en tant que coach.
Vincent Collet?
Non. Mais j'en ai aussi gagné 2. J'ai coaché l'ASVEL, j'ai été joueur avant d'être sur le banc.
Greg Pognot?
Non, entraîneur.
Philippe Hervé?
Oui, Philippe Hervé. Entraîneur capable de passer des coups de gueule, notamment en conférence de presse, je suis réputé pour être un des meilleurs techniciens français. Je suis Philippe Hervé, qui est tout proche d'effectuer son retour à Chalon-sur-Saône. On en parle dans le locker room d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'il y a du nouveau du côté de Chalon-sur-Saône. Philippe Hervé, donc champion avec Limoges notamment. C'est ça sur les finales gagnées. La Coupe de France avec Orléans.
Exactement. On en a perdu. Il était très proche d'aller en finale avec Orléans. On se rappelle de cette série fantastique face à Chalon-sur-Saône justement. Et écoutez, si ça se fait très bien. Mais pour l'instant, on a aucune information, on a aucune confirmation. On sait que Jean-Denis Choulet va quitter le club à la fin de l'année.
Et on en parle dans un instant, mais le revoir sur un banc, c'est quand même un personnage emblématique.
C'est un bon entraîneur, un peu spécial parce que très cérébral. C'est un très bon entraîneur de basket.
Il a une façon de défendre qui est quand même très spéciale.
C'est un très bon entraîneur, très bon technicien. Moi, ça me dérangerait pas de le revoir sur le banc de.
Parce qu'il a amené Orléans, il a pris le club en probé, il a vraiment construit. Et aujourd'hui, alors le club est redescendu depuis, mais il a une valeur sûre.
Il a besoin de joueurs très intelligents pour comprendre sa méthode, parce que sa méthode n'est pas. Aisé.
Ça n'a pas été le cas à Limoges quand même, quand il récupère.
Il arrive dans un contexte où il est obligé de sauver l'équipe directement et qu'il doit être performant tout de suite. Sauf que quand il a plus de temps, il met une méthode en place qui est un peu plus.
On va en parler dans le locker room, hein, puisque Cyril Méjean va venir.
Si ça t'intéresse pas ce qu'on dit, vas-y, ne coupe nous, il n'y a pas.
On en met le temps juste après.
Non, mais moi, là, ça me va bien.
4 points pour Stephen, 1 point pour David, 0 pour Fred, ça tombe bien. On va faire une petite nouveauté. Je vais vous donner des initiales. Ce sont des joueurs qui ont brillé dans cette 22e journée de JP Elite. 4 joueurs à trouver, 1 point par bonne réponse. Vous avez compris le principe?
Ouais. Oui.
C'est simple, je vous donne les initiales.
Par le prénom.
Je donne juste les deux lettres. Voilà, par exemple Stephen Brun, si on devait deviner Stephen Brun, SB.
D'accord.
Allez, on commence. Allez, facile. DB.
Devin Booker.
Non.
Ah, c'est avec les Suns qu'il a brillé.
On est en JP Elite, hein, c'est le championnat français.
DB.
Ouais, j'ai envie.
Dibos,
c'est bon.
Oui, mais oui.
Pour Fred, Dibos, pour son deuxième match de JP Elite avec Monaco, 20 points, on se passe en double-double lors de la super victoire des Monégasques à Limoges.
Bien, hein. Oui, pour son deuxième match, c'est pas mal, ouais.
C'est propre. Alors, pour mettre un petit peu de suspense, pour que vous cherchiez et que vous soyez sûr, quand vous dites une réponse, vous êtes éliminé si c'est faux.
D'accord.
Hein? Voilà. Sachant que Fred peut revenir, David peut revenir, il y a encore 3 possibilités, 3 points à prendre, et les écarts, 4 pour Stephen, 1 pour Fred, 1 pour David. IC.
Hein?
IC.
Isaac Ordinier.
Oui, c'est bon.
Oui, bien sûr, c'est bon.
Tu peux le dire. Vous savez comme il est dépité quand il a le point, là.
Ah ouais.
Acteur majeur de la victoire d'Antibes face à Bourg-en-Bresse, Isaac Ordinier.
14 points, 6 rebonds, 3 passes, 16 d'évaluation.
On est content de revoir ce garçon-là.
Il y a eu des problèmes de blessure.
Faut qu'il soit un petit peu plus régulier, mais c'est encourageant.
Régularité,
c'est encourageant de le voir capable de faire des matchs comme ça.
De le revoir reprendre du rythme.
Ouais, c'est ça.
Il peut aller jusqu'où il peut déjà, c'est quoi la prochaine étape pour lui aller signer?
La prochaine étape, c'est de s'imposer en JP Elite, de jouer 30 matchs dans une saison et de faire des stats plutôt correctes, cohérentes.
Et après, on verra.
On rappelle drafté de mémoire, Isaiah Cordinier, j'ai un trou.
Les Hawks d'Atlanta, non?
Voilà. Deuxième tour. Je pense. Il me semble que c'est ça. Donc, il était le grand artisan de la victoire d'Antibes qui se relance un petit peu pour la course au maintien en bas du classement de la JP Elite. Allez, il en reste encore 2. BS.
Black Shield.
Oh, il est fort.
Vous pouvez m'appeler Machine.
Ah là, si c'est compliqué, hein.
Black Sheep qui a été monstrueux, la victoire de Chalon-Reims face à Gravelines.
Exactement. 88-78, 18.8 sur 9, 6 rebonds, 7 passes, 28 d'évaluation. Shilp, comme on le connaît, il est noirci toutes les cases.
Joueur très complet, voilà, qui est capable de tout faire, marquer des points, bien sûr, mais qui est capable de tout faire.
Il a joué contre la France.
Oui.
lors du la dernière fenêtre internationale. Black Sheep, qui a 35 ans, continue encore de régaler. Lui qui avait été de l'équipe de Chalon en 2012 avec ce triplé.
Avec Grégoire Beugnot, ouais.
Avec Grégoire Beugnot qui avait porté l'équipe. Allez, il m'en reste un petit. WY.
Oui, Freddy Agathe.
Bonne réponse de David. Ouais. Et comme ça valait 10 points.
Petit, hein. Quoi? Je pense, timide, hein, sur Wilfried Yegueté.
Je pensais que t'aurais dit plutôt carrière, parce que l'acteur majeur de Kendrick la victoire Ray. Du Mans, c'était Kendrick Ray, pour le
effectivement.
Coup. Qu'on a vraiment.
On pouvait le faire en charade, mais c'était un peu compliqué, ouais. J'avais le Ray.
Et moi, je pensais que t'allais dire,
moi, je misais
sur Sekou Doumbouya, comme il avait fait son record en JPG.
J'ai hésité, effectivement. Alors, j'ai mis Wilfried Yegueté, parce que mine de rien, quand on rapporte à la minute, 22 d'évaluation en 22 minutes, 12 points, 9 rebonds. Alors après, c'est aussi dans ses standards, cette saison, mais bon.
Il a quand même bien lancé le Mans dans le premier quart-temps, où il fallait
effectivement,
il fait une très belle saison.
D'ailleurs, nouveau joueur, on peut en dire deux mots, de Kendrick Ray, qui arrive, qui était au Maccabi Tel Aviv.
Ouais,
qui a débuté la saison d'Euroleague, qui est prêté.
Du talent. Et si, Bartoszewski arrive à le cadrer, s'il arrive à bien s'intégrer dans l'équipe, ça peut être une vraie.
Ce garçon-là va pouvoir côtoyer le très haut niveau d'ici 2 ou 3 ans, je pense.
Ouais.
Allez, on va.
C'est fini?
Oui, c'est fini déjà. Bah, vous êtes allé hyper
gagné.
Vite.
Quoi, le score? C'est quoi le score?
Qui a gagné? Je crois que c'est David qui a gagné.
C'est 6-2-1.
Ouais. 6 pour Stephen. Ouais. 2 pour
Ah non,
pour
on peut même plus tricher. Maintenant, il affiche.
Ah oui,
ah ouais, quand même.
2 pour David, pardon. Je m'étais trompé. 2 pour David. 1 pour Fred. Bon, Stephen qui s'est encore imposé. L'esprit vif, hein.
Rappelle ce que tu m'as dit avant que l'émission commence?
Bah, je pensais que David allait s'en sortir. Voilà. J'annonçais la grosse carte de David Cosette.
Et pourquoi jamais tu m'annonces moi?
Bon, attends, t'as gagné le premier. C'était avec moi.
Tu as gagné 2 de suite, hein.
Eh oui. T'as gagné, Fred. Ouais, non, mais je sais pas, David, je pensais, mais là, Stephen était, fera la passe de 3 la semaine prochaine.
Bien sûr.
Pas de réessayer, hein.
Bien sûr. Passe de 4, passe de 5, passe de 6.
Non, c'est chelou, ce jeu, là, avec les initiales.
Et c'est,
t'as dit bête, j'ai failli dire bullshit, tu vois.
On fera pas la traduction, propos injurieux en anglais. On vient dans un instant sur RMC, RMC Sport News, un petit tour des lives, la Ligue 2 avec Metz contre Sochaux. Sébastien Ruffet, c'est reparti.
Il est au buffet, Sébastien. C'est Sébastien Buffet, c'est pas Sébastien Ruffet.
Le buffet à Saint-Symphorien, il y avait 0-0 à la mi-temps. Hein. Alors que Cholet-Dijon, ça a repris depuis 30 secondes et dans le troisième quart-temps et à la Mairie, les Choletais sont menés 28-40. Donc Dijon qui favori de cette rencontre. Je pense c'est pas illogique de les voir mener de 12. Hein. C'est pas illogique. Hein.
Non, rien de surprenant vraiment.
Locker room dans un instant avec le rapprochement Tony Parker, Jean-Michel Aulas, Asvel OL. On en parle avec Cyril Méjeanne et puis un mot également sur l'élan Chalon puisqu'il y a du nouveau du côté de Chalon-sur-Saône. À tout de suite.
RMC Buzzer Time.
Sur RMC, RMC Sport News, c'est Buzzer Time, l'émission basket tous les lundis, 21h-22h, Stephen Brun, Fred Weiss, David Cosette. On accueille Cyril Méjeanne dans un instant. Un petit tour des lives, c'est encore la mi-temps, ça n'a pas trop bougé. Un 0-0 entre Metz
Sébastien
et
Sébastien Buffet ou c'est Sébastien Ruffet?
Sébastien Ruffet quand même. Et la Jeep Elite, c'est reparti. Hein. On est dans le troisième quart-temps entre Cholet et Dijon. 42 pour Dijon, 30 pour Cholet. À tout de suite. Tout de suite, c'est Locker Room.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi, je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Cyril Méjeanne est avec
nous. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Cyril.
C'est notre sixième homme, un peu. Bon, là, c'est le quatrième, mais, cinquième.
Sortie de banc, il est toujours bon, sortie de banc, Cyril.
Sixième, maintenant.
Il fait du bien.
La condition, en fait.
Il fait du bien en sortie de banc, là, pour mettre 2-3 tirs.
Ouais, alors, la dernière fois que j'ai joué avec Stephen, j'attendais dans le corner. Il m'a fait la petite passe pour le buzzer, et malheureusement, raté.
Qu'est-ce que ça fait?
Fissure à la planche.
Non, n'importe quoi. Là, par contre, c'est pas vrai. Non, j'ai raté, c'est tout,
ça arrive, ça arrive.
Mais c'est pas, on a gagné le match.
C'est l'essentiel. Locker room, on va parler dans un instant du rapprochement Asvel OL qui est évoqué du côté de Lyon entre le basket et le football, mais ça bouge un peu plus au nord, en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône, avec une nouvelle qui est officialisée.
C'est officiel, donc le départ de Jean-Denis Choulet à la fin de la saison à l'élan Chalon, à Chalon-sur-Saône. Alors je lis le communiqué de Dominique Juillot, le président du club, compte tenu des commentaires pour le moins hasardeux et hâtifs, alors je sais pas trop de qui il parle.
Je sais pas qui peut parler.
dont l'origine ne provient pas officiellement du club. Je sais souhaite préciser la situation contractuelle de l'Élan avec Jean-Denis Choulet qui prévoyait pour chacune des parties la possibilité d'arrêter leur collaboration en fin de saison par l'intermédiaire d'une clause. J'ai donc décidé, après échange avec celui-ci, d'activer cette clause dont la date butoir a été fixée au 15 février 2019. Après, il explique un petit peu pourquoi il peut prendre ce genre de clause par rapport au contrat et il finit par ensuite, sauf obligation sportive impérieuse, il sera temps de nommer le coach correspondant à un nouveau cycle. Après, voilà, selon nos informations et les informations de Fred ce week-end, cela serait donc, et on en parlait dans le talk d'avant, dans le 1 contre 1, Philippe Hervé, l'ancien entraîneur de Cholet, d'Orléans par exemple.
Et de Chalon.
Et de Chalon exactement.
De l'image.
Vous en avez parlé juste avant.
Alors ouais. Le départ de Jean-Denis Choulet, prévisible, la prétite future, on sent que c'est arrivé à une fin le cycle.
C'était prévisible, je crois que David pourra en parler, la relation après l'épisode Portez entre Jean-Denis Choulet et Dominique Juillot, je crois que c'était le point de non-retour. Dominique Juillot n'a pas très mal vécu pour l'image de son club cette situation-là.
On rappelle l'altercation entre Jean-Denis Choulet
et puis les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. L'année dernière, ils se sauvent in extremis grâce au recrutement de Nate Wolters. Cette année, ils font un très bon début de saison et puis finalement il y a des séries de défaites et ils font que là ils sont pas sauvés encore, il va falloir gagner quelques matchs. Voilà, et puis la clause, dans tous les contrats il y a des clauses, hein. Vous savez, vous avez des 2 ans, des 3 ans avec la possibilité d'interrompre. Dominique Juillot a estimé,
entraîneur ou joueur, hein,
a estimé qu'il fallait passer à autre chose et entamer un nouveau cycle, enfin un nouveau dans un ancien si c'est Philippe Hervé, mais voilà, c'est des décisions à prendre en tant que président. Ça n'aurait pas en cause la qualité d'entraîneur de Jean-Denis Choulet.
Fred,
bah, c'est un choix du président, ça me paraît tout à fait normal de choisir s'il est pas satisfait de ce qui se passe actuellement. Stephen a expliqué pourquoi. Ben c'est logique qu'il veuille faire autre chose. Et voilà, Philippe Hervé, pourquoi pas.
On rappelle, champion de France avec Chalon-sur-Saône.
Jean-Denis Choulet.
Jean-Denis Choulet, ouais. En battant Strasbourg dans un match 7 incroyable.
Ben, depuis ce titre, c'est un peu plus compliqué en fait. Réellement. Donc ben, finalement, peut-être qu'il ne faut pas gagner des titres. On ne sait pas.
Et Philippe Hervé qui revient, David.
C'est le cas, Philippe Hervé.
Il a coaché, hein.
C'est pour ça.
Philippe Hervé, il a coaché Chalon. Il a débuté même à Chalon. Il a fini sa carrière de joueur, c'était il y a longtemps.
Philippe Hervé et Chalon, c'est une relation très très spécial. Il a été d'abord joueur, Philippe Hervé. Il a terminé sa carrière de joueur là-bas et il est passé directement au coaching dans la foulée. Et c'est lui qui a porté cette équipe jusqu'au professionnalisme avec Dominique Juillot, qui d'ailleurs, faut le rappeler, est un ancien joueur de basket. C'était entre guillemets comme un couple, les deux ensemble, oui, un tandem vraiment sur le management et tout ça. Et il a emmené quand même cette équipe qui au départ elle devait être de mémoire en national.
Ils jouaient à la Maison des Sports.
Ils sont allés, ouais, la Maison des Sports en 90. Ensuite, ouais. Ils sont allés jusqu'en finale de Coupe d'Europe. Ils ont perdu une finale de Coupe d'Europe, exactement. Donc il a fait de très grandes choses. Après, faut voir, c'est comme quand on se remarie avec son ex-femme. Est-ce que comment ça va se passer? Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il a marqué.
Déjà, tu sais ce qu'elle aime,
club. Déjà.
Tu sais ce qu'elle aime.
Exactement.
Comme peut-être qu'elle a vécu d'autres choses.
Peut-être, oui.
Ce qu'il représente dans la ville pour le club, c'est quelque chose d'absolument énorme, Philippe Labarre.
Alors ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché Chalon, parce que souvent, ça arrive de voir un coach revenir, tout sport confondu. Mais depuis le temps, Fred, à la fois Philippe Hervé a lui aussi été champion de France avec Limoges, il s'en est passé des choses, il est allé à l'ASVEL notamment, et Chalon a aussi grandi de son côté, donc finalement, ils se connaissent, mais
il y a de la nouveauté. Peut-être qu'ils se retrouvent au bon moment, parce que comme disait David, on change pendant une aussi longue période, donc peut-être que c'est le bon moment pour les deux équipes se retrouver et faire table rase du passé et pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau.
Je crois que Philippe Hervé, cette année sabbatique, entre guillemets, a dû lui faire le plus grand bien après une année compliquée, après 2 années compliquées à Cholet. Il a sûrement dû, je le connais, il a pas lâché le basket, il a dû voyager à droite à gauche, aller voir d'autres entraîneurs, d'autres perspectives et peut-être s'ouvrir aussi. C'était un coach qui était très, alors c'est pas négatif ce que je veux dire, mais qui est très obtus sur ses principes à lui, qui avait du mal à s'ouvrir à d'autres choses, qui a des principes très ancrés et qui est un peu le...
Non mais comme tu disais, il avait déjà progressé quand il est arrivé à Limoges.
Je pense que cette année, il lui a fait prendre, il a permis de découvrir autre chose et qu'on va voir un nouveau Philippe Hervé à Chalon, et j'espère.
On passe à l'autre sujet du locker room, Cyril. Jean-Michel Aulas et Tony Parker, ça discute.
Oui, de très grandes manœuvres sont en cours. Alors il y a une phrase, c'est « il s'aime de plus en plus ». C'est une phrase de Gaëtan Müller, le président délégué de l'ASVEL. Alors Jean-Michel Aulas, qui était présent au match mardi soir la semaine dernière d'Eurocup entre l'ASVEL et Andorre, et puis était également présent lors du match d'Eurocup des filles jeudi soir dans la semaine. Et alors d'après nos sources, c'est plus que de la communication le fait qu'ils viennent voir à la fois les garçons et à la fois les filles. Ils sortent du bois et le connaissant, ce n'est pas innocent, nous donne comme information cette source. Et ben oui, justement, ce vendredi dernier, donc le 8 mars, toute la journée, Jean-Michel Aulas et Tony Parker se sont entretenus avec des entretiens très importants sur un probable rapprochement. Donc une journée qui va être le début de certaines décisions. Alors même si pour l'instant personne ne communique, il n'y a pas d'interview, David a pu discuter avec Gaëtan Müller ce week-end, il n'y a rien d'annoncé et rien d'officiel. Voilà, il est probable que Jean-Michel Aulas, par l'intermédiaire de l'OL et de sa société Holding, rentre dans le capital de l'ASVEL pour faire progresser le budget au-dessus des 10 millions, pourquoi pas dans un premier temps, et puis arriver au budget que Tony souhaite par rapport à l'EuroLeague, c'est-à-dire les 15 millions. Mais attention, cela restera à l'ASVEL. Pas question d'avoir un Noël basket ou un autre nom. L'ASVEL restera, gardera son identité et gardera
sa structure. Mais un des points importants et clés de ce dossier, c'est la salle, la construction de la salle. L'ASVEL cherche une salle parce que l'Astrobal, salle historique, mythique, mais c'est pas du tout au standard de l'Euroleague. L'Astrobal, c'est quoi, 5000 places?
Un petit peu plus.
Ouais, un peu ouais, plus. L'Euroleague, c'est salle moderne, 10 000 places, en gros, hein, pour schématiser. Là, il peut y avoir un point d'entente parce que il a besoin, Jean-Michel Aulas, à côté de son Groupama Stadium, son Montparc OL. Il veut créer une salle de spectacle, lui.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Jean-Michel Aulas va construire une salle. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec l'ASVEL ou pas, il va construire une salle omnisport et de concert, près du Groupama Stadium, à Décines, qui serait, pour ceux qui connaissent Lyon, de l'autre côté de la rocade de l'autoroute.
En fait, faut prendre une petite passerelle du stade.
Exactement, il y aurait une petite passerelle et profiter du parking du Groupama Stadium, ce qui permettrait en plus de pas construire de parking à côté de la salle. Et l'objectif, voilà, c'est de faire en sorte que l'ASVEL vienne jouer dans cette salle. Alors, est-ce que l'ASVEL viendrait définitivement pour faire tous les matchs? Cela paraît compliqué à croire, puisque malgré tout, Tony Parker et l'ASVEL souhaitent garder un pied à Villeurbanne, puisque c'est le lieu historique du club. Mais pourquoi pas envisager, et ça fait partie des possibilités, que l'ASVEL joue à l'Astrobal ou dans une nouvelle salle à Villeurbanne pour la JPEG, et que l'ASVEL profite de la nouvelle salle de Jean-Michel Aulas pour l'Euroleague, puisqu'il y a un minimum de place. Minimum de
Non, mais il vaut mieux, parce que je peux te dire que si jamais il devait aller donc dans une grande salle de 10 000 à Décines pour jouer des matchs de JP Elite, le jour où il reçoit Fos-sur-Mer ou Le Portel, je pense que t'as de la place pour allonger tes jambes en tribune, hein.
Ouais, mais moi ça m'embête. Ça m'embête. C'est juste un petit détail. Moi, ça m'embête que l'ASVEL joue dans deux salles différentes. Si on a envie que Villeurbanne devienne un grand club et s'imposer dans cette Euroleague-là, tous les grands clubs d'Euroleague, ils ont une salle et ils sont
à l'avenir. Je suis d'accord avec David. Comment tu vas remplir avec des matchs de JPEG 10 000 places? Tu vas jamais les remplir. Et en plus, tu fermes la liste de Villeurbanne.
Pourquoi le fait de jouer les grands matchs dans une grande salle et les matchs, on va dire, classiques de JPEG dans une petite salle te dérange?
Qui fait ça en Euroleague?
Je sais pas, mais on peut le faire en France.
Quel club en Euroleague fait ça?
Oui, mais c'est pas parce qu'on le fait pas, on peut pas le faire ici.
Il faut se mettre au standard de l'Euroleague, non?
Oui, alors le seul truc, il faut bien habiller les choses avec effectivement un rideau avec des jolis logos du club tout autour sur le deuxième anneau, je sais pas comment configurer la salle, mais en gros c'est ça, parce qu'il y a rien de pire qu'une salle que tu vois à moitié vide, mais ça arrive à plein de clubs de Euroleague. Tu vas voir le Žalgiris Kaunas, quand ils reçoivent le championnat lituanien, il y a deux équipes vraiment fortes, il y a beaucoup d'équipes vraiment nulles et ils font personne dans la salle.
Merci messieurs, en tout cas on attend des nouvelles, Cyril, Jean-Michel Aulas avec Tony Parker. Un petit tour sur les lives, la Ligue de Metz contre Sochaux, Sébastien Ruffet.
56e minute de jeu, toujours 0-0. La plus grosse occasion à l'instant pour Thomas Delaine, l'arrière gauche messin qui frappe croisé, mais c'est repoussé par le gardien sochalien. Sochaux qui attend toujours de jouer en contre, mais ça fait toujours donc 0-0 après 56 minutes de jeu entre Metz et Sochaux.
Et la JP Elite, 49 pour Dijon, 39 pour Cholet. C'est la fin de Buzzer Time. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve très vite sur l'antenne de RMC, RMC Sport News. Dans un instant, l'After Foot, Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Pierre Ducrot. Bonne soirée à la semaine
prochaine. Ciao, ciao.
RMC Buzzer Time.